Alors, si vous voulez me suivre, on va aller dans Hébreux, chapitre 1, versets 13 et 14. Hébreux, chapitre 1, versets 13 et 14. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Alors, comme vous le savez, la semaine dernière, on avait commencé une brève étude sur les anges. Donc, on avait divisé ça en deux. Deux leçons sur les anges bons. Et les deux dernières leçons, ça va être sur les anges mauvais, Satan et les démons. Alors, on est dans la deuxième section des anges bons. Donc, on avait commencé la semaine dernière à faire l'étude. On va terminer aujourd'hui pour les anges bons. Et ça va faire une série de quatre. Alors, on avait vu les anges, qui sont-ils? Le titre de la petite série de deux sermons sur les anges bons, c'est les anges, qui sont-ils et pourquoi Dieu les a-t-il créés? Alors, si vous voulez, on va demander au Seigneur de bénir notre étude. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous venons à ta sainte présence. C'est toi qui as institué ce jour, Seigneur, ou qui se doit d'être consacré à ton adoration et au repos. Alors, Seigneur, on te prie ce matin que ton esprit nous guide, nous illumine, nous éclaire, nous ouvre l'intelligence à la compréhension de ta parole et des implications pratiques des enseignements qu'on donne. Car Seigneur, si on vient ici, qu'on écoute un sermon et que ça n'a aucun effet de transformation de notre vie, j'ai bien peur que ça soit inutile ou presque. Alors Seigneur, on te prie de permettre qu'on soit attentif, qu'on soit réceptif à ta parole et que ces choses-là changent des choses concrètement dans nos vies. On te le demande par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Alors, ce qu'on va faire, une brève étude, un bref survol, un résumé de ce qu'on avait vu dans notre dernière leçon pour que ça fasse une continuité. Alors, on avait vu qu'il y avait un pasteur américain nommé Kenneth Gangle, qui avait publié un article en 1995 qui avait intitulé « Angelomania » pour dire qu'aux États-Unis, il y avait une mode énorme sur les anges. Et c'est drôle parce que hier, j'écoutais une nouvelle, puis il y avait encore une annonce d'une émission américaine qui va commencer. C'est encore sur une affaire d'archange. Et ça confirmait vraiment que c'est la mode aux États-Unis actuellement. Les anges sont présent dans la vie des gens, mais est-ce que c'est les anges tels que décrits dans les Écritures? Ça, c'est une autre affaire. Alors, la raison pour laquelle on fait l'étude, c'est pour que notre compréhension du sujet des anges, de la doctrine des anges, soit biblique. Et il y avait un autre magazine qui s'appelait le Newsweek, qui en 1994 publiait un article qui s'appelait « In Search of the Sacred », donc à la recherche du sacré. Et, écoutez bien ce qu'il disait, 20% des Américains disent avoir eu une révélation directe de Dieu au cours de la dernière année. Ça vous fait pas peur un peu, là? Moi, ça me fait vraiment peur. Parce que quand les gens commencent à dire qu'ils ne reçoivent plus la révélation des Saintes Écritures, mais que Dieu leur parle directement, là, on est dans le plein subjectivisme, on peut faire dire n'importe quoi à Dieu, et c'est vraiment extrêmement dangereux tout cela. Et il disait aussi qu'il y avait 13% des Américains qui avaient dit avoir vu ou senti la présence d'un ange au cours de la dernière année. Alors, est-ce que les Écritures mentionnent les anges dans les Écritures pour rien? Il y a un but pourquoi les Écritures nous parlent tellement souvent des anges. On avait mentionné la dernière fois qu'il y a 370 passages dans les Écritures où on parle des anges. 370 passages. Et les anges sont mentionnés dans 34 des 66 livres des Écritures. Donc, c'est parce que Dieu veut qu'on sache certaines choses sur les anges et les implications dans notre vie de tous les jours pratiques. Il y a des implications pratiques qui sont rattachées à tout cela. Alors, on avait regardé la semaine dernière qui sont les anges. Alors, Wayne Grudem les définit comme suit. Les anges sont des êtres spirituels créés, doué de jugement moral et d'une grande intelligence, mais sans corps physique. On avait vu que les Écritures aussi utilisaient une certaine terminologie pour parler des anges, donc des mots différents pour parler de la même réalité. On utilisait l'expression « Fils de Dieu », « Saint », « Esprit », « Ceux qui veillent », « Les trônes », « Les seigneuries », « Les autorités » et « Les puissances ». Tous ces termes-là font référence aux anges. Maintenant, on sait que les anges sont des êtres spirituels créés. Donc, c'est pas des êtres qui ont toujours existé, un peu comme les hommes, ils ont eu un début, un commencement. On a vu aussi qu'il y avait, les Écritures parlaient de certains types d'anges, donc il y avait deux types, les chérubins et les séraphins. On ne reviendra pas non plus sur toutes ces choses-là. Et on avait vu aussi que chez les anges bons, et même chez les anges mauvais, il y a une hiérarchie. Donc certains anges ont un rang au milieu d'eux qui est plus élevé que les autres, dont les archanges, par exemple. Il y a deux anges qui sont importants dans les Écritures, dont on connaît le nom. Dieu mentionne le nom dans les Écritures, et c'est Michel et aussi Gabriel. On avait vu aussi que les anges ne sont pas omniprésents. Les anges ne peuvent pas être partout présents en même temps. Ils peuvent être présents à plusieurs endroits, mais rapidement, mais ils ne peuvent pas, ni Satan, ni aucun de ses anges, qu'ils soient bons ou mauvais, ne peut être omniprésent. Alors, les anges ne peuvent être présents qu'à un seul endroit à la fois. On avait vu aussi une estimation, combien les Écritures nous disent qu'il peut y avoir d'anges créés. On avait vu que dans Daniel 7, versets 9 et 10, ça disait que 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient devant lui. 10 000 millions, c'est 10 milliards. Donc, ce n'est pas nécessairement une indication du nombre précis d'anges qu'il y a dans les Écritures, mais quand on parle de 10 milliards, ça nous donne une petite idée que les anges, c'est des créatures qui sont extrêmement nombreuses. Ensuite, on avait regardé rapidement, est-ce que les Écritures nous enseignent que nous avons un ange gardien? Et on avait vu que c'était une doctrine qui avait surtout été développée par l'Église catholique. La réponse, c'est non, mais ça n'exclut pas la possibilité que Dieu ait puisse permis dans le temps, dans l'histoire, des individus, des nations, de l'intervention des anges dans nos vies personnelles de tous les jours. Alors, c'était pour aller rapidement, là, ça serait ça. On avait vu aussi que les anges ne se mariaient pas. On avait vu aussi que les anges étaient puissants, donc ils ont une force plus grande que la nôtre. Par exemple, quand un ange a roulé la pierre, ça prenait plusieurs hommes, là, pour rouler la grosse pierre dans le tombeau dans lequel on avait mis Jésus. Ça aurait pris vraiment plusieurs hommes pour être capable de rouler ça. Et il y a eu un ange qui l'a roulé. Donc, ça démontre une chose, c'est qu'ils sont physiquement plus forts que nous. Maintenant, on avait posé la question aussi, quand les anges ont été créés? Et il semblerait que ce soit avant le sixième jour, parce que dès le sixième jour, ça disait que Dieu avait créé et que tout était bon. Donc, ça implique une création, soit le sixième jour ou soit avant. On a parlé surtout du sixième jour. Et on était rendu au point, on avait commencé un petit peu le deuxième point, qui était la place des anges dans le plan de Dieu. On avait vu qu'est-ce que les anges font dans le plan général de Dieu concernant les relations, ses relations avec les hommes. Donc, ils se servent d'eux comme des messagers, mais c'est quoi leur fonction? On va regarder qu'il y a des fonctions générales. Alors, une de leurs fonctions, ils se tiennent devant Dieu et l'adorent. Un autre, c'est qu'ils protègent et délivrent le peuple de Dieu. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans l'Ancien Testament, il y avait un passage, la guerre était prise, et il y avait un assistant qui était avec un prophète, et là, il se voyait entouré par la grosse, grosse, grosse armée. Et l'assistant, lui, il ne voyait pas les anges. Et lui, il était comme terrorisé. Il dit, ça y est, on meurt. ils vont nous avoir. Et le prophète a dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux. Et là, le Seigneur lui a ouvert les yeux et il a vu la multitude d'anges qui les entouraient. Et là, il a compris que l'armée syrienne, c'était absolument rien, là, qu'il y avait vraiment... Et à quelque part, c'est... Donc, il protège et délivre le peuple de Dieu. Ça, c'est un exemple. On pourrait en prendre beaucoup d'autres. Aussi, il guide et encourage les serviteurs de Dieu. Et ils servent aussi parfois à transmettre des révélations divines. Aussi, ils interprètent la volonté de Dieu aux hommes. Par exemple, on a des exemples de ça dans Daniel, dans Zacharie, dans Jean, dans Apocalypse. Autre fonction qu'ils ont, ils sont des exécuteurs des jugements de Dieu sur les individus et sur les nations. Parfois, Dieu utilise des anges pour faire ses jugements. Et quel exemple qu'on peut prendre des Écritures où Dieu utilise des anges pour punir des nations ou des individus? On peut prendre l'exemple de Sodome et Gomorre. On peut prendre l'exemple d'Hérode, qui est un individu que Dieu permet qu'il soit jugé. Et il y aurait beaucoup d'autres exemples. Mais c'est juste, dans le fond, donner un peu une idée des principales fonctions des anges, pourquoi Dieu les a créés. Aussi, une autre chose qu'ils font, c'est qu'ils enseignent et révèlent les mystères aux prophètes. Par exemple, dans Apocalypse 17, verset 1, ça se dit « Viens ici, je te montrerai la sentence de la grande prostituée. » Ou Apocalypse 21, verset 9, « Viens ici, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Alors, ils peuvent révéler aux hommes certains mystères et ils vont aussi transporter les sauvés au ciel après leur mort. Luc 16, 22, on va y aller. C'est intéressant de savoir ça. Luc 16, verset 22. Le pauvre mourut, c'est dans le cadre de la parabole du mauvais riche et de Lazare. Le pauvre mourut, il fut transporté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, il fut enseveli. Alors, ça nous dit que après notre mort, on est transporté par les anges pour aller rencontrer le Seigneur. Et aussi, les anges vont souvent accompagner le Seigneur dans ses jugements qu'on pourrait dire judiciaires. Quand le Seigneur fait des choses, par exemple, on va voir Matthieu 25, 31, juste pour prendre un exemple rapide. Matthieu 25, verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire, toutes les nations seront assemblées devant lui, il séparera les uns d'avec les autres comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs, il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche, alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui a été préparé dès la fondation du monde, et etc. Alors, il est en train de montrer que dans les jugements judiciaires que le Seigneur a fait ou va faire, parfois il utilise les anges pour accomplir ces jugements-là. Maintenant, on a vu les fonctions en général de ce que les anges, pourquoi le Seigneur les a créés. Maintenant, il a accordé certaines fonctions à certains anges, dont l'archange Michel. L'archange Michel, vu qu'il était un chef, Dieu l'a utilisé dans le livre de Daniel, par exemple, et il nous montre que l'archange Michel a souvent été utilisé par Dieu dans la lutte avec des rois qui ne voulaient pas accomplir certaines choses que Dieu voulait, et Dieu envoyait son ange pour régler la situation sur la terre. Alors, autrement dit, ils sont des acteurs dans la vie politique, parce que quand ils interviennent dans un pays parce qu'ils ne veulent pas accomplir la volonté de Dieu. C'est sûr que Dieu pourrait le faire sans l'ange, mais il veut que ça soit fait par l'intermédiaire des anges. Maintenant, On a vu les généralités, on a vu les fonctions de l'archange Michel. Maintenant, une chose qu'on a fait, on peut pas nécessairement porter très attention, mais au cours de toute la vie de Jésus-Christ, dans le développement de son ministère sur la terre, les anges sont présents tout partout, à partir de la naissance, aller jusqu'à la mort et même après la mort. Ils sont vraiment présents dans la vie de Jésus-Christ. Alors, on va aller regarder un petit peu ces choses-là. Donc, à la naissance, ce sont les anges qui annoncent la naissance du Sauveur à Marie, c'est un ange. C'est les anges aussi qui annoncent la venue du Christ au berger, dans Luc, chapitre 2, versets 8 à 15. Et les anges adorent le Fils de Dieu fait homme, comme ça dit dans Hébreux, chapitre 1, verset 6. Ça dit, « Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né ici, c'est dans le contexte, c'est Jésus-Christ, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. » Alors, une des choses que, quand Jésus est arrivé sur la terre, les anges de Dieu l'ont adoré dans sa nouvelle fonction de Messie révélée aux hommes. Aussi, les anges sont intervenus pour rassurer Joseph. Quand Joseph, qui n'avait pas couché avec Marie, puis qu'un bon matin, il voit sa femme arriver enceinte, oh, il y a un problème. Même pour un croyant, de voir ta femme arriver enceinte et de penser que, de croire que ce que l'ange va dire, puis c'est l'ange qui est venu rassurer Joseph, parce que Joseph, il avait pensé de la quitter, de se séparer d'elle, mais il voulait le faire secrètement. Donc, c'est une personne qui était charitable, il ne voulait pas amener de l'opprobre sur Marie. Mais c'est l'ange qui est venu lui dire, « Ne fais pas ça. » Et c'est aussi un ange qui a dit à Joseph de partir et d'aller en Égypte. Parce que l'ange savait, de par Dieu, que s'il n'avait pas parti pour l'Égypte, bien sûr, les dirigeants politiques de l'époque qui savaient que le nouveau roi des Juifs était venu au monde, ils ont voulu d'ailleurs le faire, mais ça n'a pas marché, mais c'était dans leur volonté. Et c'est aussi un ange dans Matthieu 2, 19 qui dit, l'ange a demandé qu'il revienne d'Égypte. Maintenant, Hérode est mort, tu peux revenir. Alors, les anges sont vraiment présents très souvent. C'est aussi un ange qui avait dit d'aller en Galilée. Alors, souvent, on va lire, on le voit, l'ange est là, mais de voir combien de fois c'est apparu dans le déroulement de la vie de Jésus, des fois, c'est surprenant. Donc, à la naissance, au moment de la naissance, où dès le jeune âge de Jésus, les anges intervenaient de façon régulière, et aussi dans le ministère de Jésus. Donc, au début du ministère de Jésus, quand Jésus a eu la tentation, qu'est-ce que Dieu a permis? Que des anges viennent pour l'encourager. Parce que dans Matthieu, chapitre 4, verset 11, sont venus servir Christ après que la tentation. Donc, il y a eu au début du ministère, et là, on pourrait aller au milieu du ministère, quand Jésus a dit à Nathanaël qu'il verrait les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme, dans Jean, chapitre 1, verset 52. Donc, on peut conclure qu'au début, au milieu et même à la fin, tous les anges étaient très présents dans la vie de Jésus-Christ. Comme par exemple dans Matthieu 26, 53, le Seigneur a dit qu'il aurait pu disposer de 12 légions d'anges pour le protéger s'il l'avait voulu. Et 12 légions, on peut se demander combien c'est de monde, combien c'est de personnes, 36 000. 12 légions, c'est 36 000. Le Seigneur a dit, si je voulais, là, il y aurait 36 000 anges qui viendraient me défendre dessus. Il n'a pas voulu parce que ça ne faisait pas partie du plan de Dieu. Maintenant, à la fin du ministère de Jésus, donc durant toutes les 3 années, ils ont été présents à plusieurs, de différentes façons, plusieurs endroits, à différents moments de sa vie, mais aussi à la fin du ministère de Jésus. Quand Jésus était dans le jardin de Gethsémani, dans Luc 22, verset 43, c'est un ange qui est venu fortifier le Seigneur. Pourquoi Satan a attaqué si fort au moment de Gethsémani? Satan dirige toujours ses attaques les plus vigoureuses contre les points les plus faibles de sa victime. Nous, faites-vous-en pas, Satan, il connaît nos points faibles. Et c'est toujours, il n'attaquera jamais par notre point fort. Il va attaquer par ton point le plus faible. Et Jésus était au jardin de Gethsémani et on disait que sa souffrance était tellement intense qu'il y a eu comme la sueur des grumeaux de sang. Alors, quelque part, Jésus voyait au jardin de Gethsémani. On n'a pas idée de l'ampleur de la réalisation, de la prise de conscience par Jésus, homme, de ce qu'il s'apprêtait à souffrir. Et là, le Père lui a voulu lui montrer, quand il a dit « Éloigne cette coupe de moi », il est en train de lui montrer le coût de ce que ça lui aurait coûté du jugement de tous nos péchés sur lui, sur la croix. Et il souffrait beaucoup, et c'est à ce moment-là que le malin vient, et il voulait essayer de faire pécher Jésus, mais on sait que ça n'a pas fonctionné. Maintenant, un autre moment, il n'y a pas de manifestation angélique entre Gethsémani et le matin de la résurrection. Parce que Jésus, au moment qu'ils sont venus le prendre, il a dit « C'est votre heure et le pouvoir des ténèbres ». Autrement dit, pour un certain temps, les anges n'ont pas intervenu. Mais durant les 3 heures, bien entendu, sur la croix, là, il s'est passé vraiment quelque chose d'extraordinairement profond. C'est le jugement de nos péchés sur la personne humaine de Jésus-Christ, sur le côté humain, qui lui a fait subir le châtiment qui aurait dû être le nôtre à notre place sur la croix, sur une période déterminée de temps de 3 heures. Ça, là, quand on rentre un petit peu dans la réalisation, dans la conscientisation, de l'intensité de l'amour de Christ pour nous d'accepter de subir ce châtiment-là à notre place, on est émerveillé. Parce que c'est vraiment, l'amour de Christ dépasse de beaucoup notre imagination. Et, bien entendu, les anges, ils auraient pu intervenir, toutes les myriades d'anges, au moment où Jésus était sur la croix, et il n'y a eu aucune intervention, parce que c'était ça que le Père avait décidé comme plan, que ça devait se réaliser de cette façon-là. Maintenant, à la résurrection, là, on les voit réapparaître, rouler la pierre et poser des questions aux disciples qui étaient venus pour chercher Jésus. Et ils ont demandé, dans Luc 24, verset 6, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. » Donc, Dieu se sert encore une fois d'un ange pour informer les disciples qui venaient pour dire « Pourquoi tu cherches Jésus parmi les morts? Il n'est pas mort, il est ressuscité, il est vivant. » Un autre, c'est fort probablement à l'ascension de Jésus qui est encore de la présence des anges. Maintenant, à la résurrection, pas à la résurrection, mais au retour de Jésus, il va y avoir encore des anges. Voyez-vous, dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 7, ça dit « Le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. » Je parlais l'autre jour avec Pedro. La première venue de Jésus, ça s'est fait dans le silence, dans le calme et dans le secret presque. Elle a été très discrète, la première venue. Mais la deuxième, elle ne sera pas discrète. Selon les Écritures, tout le monde le verra et il va être accompagné de ses anges. Ça va sûrement être une image pour ceux qui sont sur la terre, terrorisante. Terrorisante littéralement. Alors, le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. Maintenant, on a vu un petit peu, très rapidement, on pourrait faire une étude très approfondie juste de ce sujet-là, la présence des anges dans la vie de Jésus. Maintenant, on va regarder la présence des anges dans la vie du croyant, dans notre vie à nous. Comment les anges interviennent, comment les anges agissent dans tout cela. Alors, c'est selon notre verset tremplin qu'on s'était versé, on s'était servi au début, dans Hébreux 1,14, les anges sont des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère. Qu'est-ce que ça veut dire, ministère? Un ministère, c'est un service. Autrement dit, ils sont à notre service. Assez spécial, ils sont plus intelligents que nous, ils sont plus puissants que nous, ils sont plus forts que nous, et Dieu les utilise pour nous servir, nous. Et les Écritures nous disent même que eux sont des êtres créés, nous on est des êtres créés, puis quand on va être au ciel, on va être plus haut qu'eux. À cause du fait qu'on est en Jésus-Christ, on va être plus élevé en dignité que les anges, même les plus élevés. C'est assez flyé, ça aussi, quand on s'arrête à penser à ça un petit peu. Alors, ils sont là pour nous servir. Il semblerait qu'ils nous connaissent par nos noms. Le livre des Actes nous présente de façon assez complète le ministère des anges pour les croyants. Délivrance et protection. Est-ce qu'on se souvient d'un exemple précis de délivrance dans le livre des Actes? Pierre. Pierre était en prison, il était sur le bord d'être jugé le lendemain, et il aurait été vraiment, probablement que ça aurait été sa vie, ça lui aurait coûté sa vie. Durant la nuit, le Seigneur permet qu'un ange va là, brise ses chaînes, le fait sortir, et on sait l'histoire, elle cogne à la porte, puis la fille a dit Puis là, le monde ne le croit pas, et à quelque part. Donc, on pourrait prendre des exemples, comment ils interviennent dans la vie du croyant. Pierre, c'est un croyant, donc ils sont là pour de la délivrance et aussi parfois pour de la protection. On va aller dans Actes, parce qu'il y a beaucoup d'endroits là-dedans qui sont dans le livre des Actes, donc on va y aller un petit peu. Acte 7, verset 26. Ici, on a un exemple d'un ange qui est utilisé par Dieu pour diriger un serviteur vers un élu pour annoncer l'Évangile. Donc, Dieu se sert des anges dans la vie du croyant pour nous envoyer vers des inconvertis. Parfois, ici, il y a l'exemple du diacre Philippe et de l'eunuque éthiopien. Donc, ça dit, un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, juste penser à s'arrêter, Philippe, ça veut dire qu'il y a un ange qui lui a parlé. Est-ce que c'était intérieurement, est-ce que c'était par une voix? Le texte ne le dit pas, mais il faut croire que c'était assez clair parce qu'il a obéi. Ça dit, lui dit, « Lève-toi, va du côté du Midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. « Voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venait à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char, et lisait le prophète Isaïe. » Alors, on voit le ministre des Finances, comme le ministre des Finances. L'Éthiopie, à cette époque-là, c'était pas notre Éthiopie moderne. C'était puissant, c'était riche, et c'était le ministre des Finances. Et pourquoi Dieu avait choisi le ministre des Finances pour se révéler à lui? Il lisait le prophète Isaïe, puis il ne comprenait pas. Il ne comprenait pas certains passages. Dieu envoie Philippe pour lui expliquer, et on sait qu'il lui a expliqué, il a compris immédiatement, et tout de suite après, il a demandé pour être baptisé. Donc, à quelque part, Dieu se sert d'un ange pour diriger un élu vers un autre futur croyant. Et Dieu le fait peut-être aussi avec nous dans certaines circonstances, nous met à l'esprit d'aller parler à un, parler à l'autre. Donc, Dieu se sert des anges pour aider dans l'évangélisation. Et Dieu va faire aussi du service dans Acte 10, verset 3. On est proche, on va y aller. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui, qui lui dit « Corneille ». On voit ici l'exemple qui dit à un ange qui vient voir Pierre et qui lui dit « Tu vas aller voir Corneille ». Parce que Dieu, dans son plan, Corneille était un futur élu et il l'amène à aller au domicile de Corneille. Et parfois, c'est pour encourager, on va aller dans Acte 27, verset 23. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, « Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. » Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Voyez-vous l'intervention de l'ange pour dire à Paul, « Inquiète-toi pas, le bateau, tout le monde va être sauvé si tout le monde reste dessus. » Et on sait qu'il y a eu un petit peu de... Le monde, il y en a qui voulaient débarquer. Paul il a dit, « Si vous débarquez, ça ne marchera pas, vous allez mourir. » Et ils ont resté, ils ont tous été sauvés comme de raison. Parce que Dieu... Il est en train de servir d'un ange pour dire à son serviteur, « Inquiète-toi pas, tu ne mourras pas, parce qu'il faut que tu y ailles devant, que tu comparaisses devant César, il faut que tu ailles à Rome. » Alors Dieu avait un témoignage à faire à Rome, et il se sert d'un ange pour dire, « Tu vas y aller, inquiète-toi pas, tu ne mourras pas sur la tempête que vous êtes en train de traverser. » Et on voit leur présence, là, quand on parle de 370 passages dans 34 livres, il faut des fois s'arrêter et réaliser un petit peu que les anges sont continuellement en rapport avec les élus, pour toutes sortes de raisons. Aussi, si on va dans Acte 12, verset 23, on va voir que Dieu les utilise parfois pour l'exécution d'un jugement. Acte 12, verset 23. Ici, on a la mort d'Hérode. Hérode était en haut de son... Et il semble-t-il qu'il s'était habillé avec un genre de... C'est comme si ça serait habillé avec du papier d'aluminium pour que le soleil... Il avait mis un genre d'habit qui reflétait la lumière. Et là, il était en train de faire un grand discours devant le monde. Il se pétait bretelle un peu. Et Dieu il a dit non, là, c'est trop... Tu vois, on va arrêter ça direct là. Verset 23, au même, vois-tu, il se disait, à un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux, et assis sur son trône, les harangua publiquement. Et là, le peuple a voulu le flatter. Le peuple a crié, voix d'un Dieu et non d'un homme. Là, c'était trop. Le Seigneur, au même instant, un ange du Seigneur le frappa. Parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu, et il expira rongé des vers. C'est assez pénible comme mort, ça. Alors, le Seigneur intervient régulièrement dans la vie des hommes, dans la vie des individus, des croyants, et aussi des nations, parfois, pour juger. Donc, on va regarder certaines grandes fonctions de ce que les anges font dans nos vies. On va les regarder dans les grandes catégories. La première catégorie, les anges nous protègent et nous délivrent. La semaine dernière, on était au restaurant, on faisait un petit peu des échanges sur la question, est-ce qu'on pense que dans nos vies, le Seigneur a des moments précis pour protéger notre vie lors d'un accident ou toutes sortes de choses semblables? Est-ce qu'on pense, sans être capable de dire, je suis sûr à 100%, est-ce qu'on pense que le Seigneur a envoyé des anges dans nos vies pour nous protéger ou pour nous délivrer? Et il semble que la plupart reconnaissaient avoir eu dans leur vie des moments où on se dit fort probablement que c'est un ange. Moi, j'ai l'exemple personnel d'un accident. Je t'assure de me tuer, je t'assure. Je suis sorti de là, puis j'ai même pas une égratignure. Fort probablement que le temps de ma mort est fixé pour plus longtemps. Puis c'était pas ça qui était pour me tuer, même si normalement, ça aurait dû tuer quelqu'un. En gros. Alors, ça, les anges nous protègent et nous délivrent. Par exemple, On parlait tantôt de l'exemple du prophète, qui était Élisée, dans 2 Rois, chapitre 6, versets 14 à 17. Alors, lorsque le jeune homme qui accompagnait Élisée a vu la puissance armée de Syrie campée autour de Samarie, il a dit « Hélas! » Autrement dit, « Ça y est, on est fait, on va mourir aujourd'hui. » Il y a trop de monde, on est tout seul. S'ils nous attaquent, c'est sûr qu'ils vont gagner. Alors, Élisée lui déclare que ceux qui sont avec eux, et là, il ne parle pas d'être humain, il parle d'être invisible. Les anges sont plus nombreux que les soldats de l'armée de Syrie. Allons-y, c'est un beau passage à lire. 2 Rois, chapitre 6. Versets 14 à 17. Alors, on voit que c'était les Syriens qui voulaient prendre le prophète Élisée. Et à partir du verset 14, on voyait là à partir du verset 13, « Et le roi dit, « Allez et voyez d'où il est, et je le ferai prendre. » On vint lui dire, « Voici, il est à Dothan. » Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Là, on voit l'intervention d'anges, et il était présent. Pourquoi Élisée n'était pas nerveux? Parce que lui, à cause de Dieu, lui les voyait. Je ne revois pas que ça. Mais le serviteur ne le voyait pas, mais Dieu a permis qu'Élisée, par une prière, lui ouvre les yeux. C'est sûr que là, à partir du moment qu'il les a vus, ça a changé toute sa perspective. Et dans Actes 27, versets 23-27, on a aussi Dieu qui envoie un ange pour réconforter Paul. On a le fameux passage aussi dans le psaume 37, versets 7 et 8, qui dit « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. » Et il les délivre. Alors, on parlait tout à l'heure de grandes catégories, protégées, délivrées. Ici, dans le psaume 37, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les délivre. Et ça dit, goûtez et voyez que l'Éternel est bon. Bienheureux l'homme qui se confie en lui. Dans Actes 12, versets 5 à 11, Pierre est délivré de la mort par un ange. Alors, parfois, je me demande combien d'entre nous l'a fait. On pense, parce que quand on discute, on se rend compte que, fort probablement, on croit tous que Dieu a permis qu'un ange intervienne dans nos vies, dans différentes circonstances. Mais combien d'entre nous ont remercié le Seigneur pour cela? Des fois, on dit, ah, c'est peut-être un ange, mais on pense même pas de dire... Ben, si c'est toi, Seigneur, qui a envoyé un ange pour me protéger, merci. Voyez-vous, des fois, on ne fait pas la connexion. On aurait besoin d'être plus plugué, comme on dit en québécois. Donc, première grande catégorie, il nous protège et nous délivre. Deuxième grande catégorie, il nous regarde. Il nous regarde vivre individuellement et il nous regarde vivre collectivement. Ce matin même, ici, là, au moment présent, il y a des anges qui nous regardent, qui nous observent. C'est intimidant un peu quand on s'arrête, parce qu'on s'arrête tellement peu souvent à ça. Mais quand on s'arrête de penser qu'il y a des anges qui regardent ce qui se passe dans l'église de Rouyn-Noranda, c'est quelque part, c'est vrai que c'est intimidant. Mais comme quelqu'un dit, c'est encore bien plus intimidant de penser que Dieu nous voit, lui, en tout temps. Oui, bien sûr, mais l'un n'exclut pas l'autre. Alors, les anges nous regardent vivre intellectuellement. Les anges, comme les Écritures nous le disent, sont des spectateurs intéressés de tous nos actes. 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 9. 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 9. Car Dieu, ce me semble, a fait de nous, apôtres, les derniers des hommes, des condamnés à mort en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Donc, ce qui se passe sur la terre en termes de notre façon de vivre, c'est un spectacle ouvert. C'est un peu comme si on serait dans un aréna ou dans un grand stade. Les anges aiment regarder ce qui se passe, de quelle façon Dieu agit dans nos vies, avec nos victoires, avec nos défaites. La grâce de Dieu qui se manifeste dans tout ça, bien sûr qu'ils doivent être fascinés parfois. Regarde-moi ce pécheur. Il a tombé. Et là, il te voit prier, dire à l'Éternel, « Seigneur, je te demande pardon, j'ai eu une faiblesse, j'ai tombé. » Vraiment, il voit ça et il voit que Dieu pardonne. Ils doivent être émerveillés parce que ce péché-là que l'individu a commis lui mériterait d'être plongé dans le lac de feu pour l'éternité. Et eux, ils voient que par une simple confession, tu reviens en parfaite harmonie avec ton Créateur. Et ils observent l'ensemble de tous nos actes et sont un peu comme des spectateurs dans un cirque. À l'employer le mot spectacle, Paul présente le monde comme d'immenses arènes où non seulement les apôtres, mais tous les chrétiens véritables tiennent un rôle dans le grand drame qui s'y joue. Rien n'est sans importance et banal quand le ciel s'en occupe. Alors, c'était de voir ces choses-là. C'est vrai qu'on ne s'arrête pas souvent à penser à ces choses-là. Alors, il nous observe individuellement et fort probablement en tout temps. Et les anges nous regardent vivre en assemblée. Éphésiens, chapitre 3, verset 10. La sagesse si diverse de Dieu est maintenant donnée à connaître aux principautés et aux autorités. C'est qui, ça, les principautés? Les autorités, on l'a dit tantôt, Dieu utilise des mots différents pour parler des mêmes réalités. Il parle ici des anges. Il dit « La sagesse si diverse de Dieu est maintenant donnée à connaître aux anges, aux principautés, aux autorités, c'est les anges, dans les lieux célestes, par l'assemblée. » On est en assemblée ce matin, donc les anges, Dieu permet qu'ils voient à travers nous la sagesse si diverse de Dieu. La sagesse diverse, c'est comme... Il y a tellement d'aspects, de diversité, de facettes dans la sagesse de Dieu qui se manifeste dans l'assemblée que Paul remercie. Il dit... il voit ici cette chose-là qui se manifeste dans l'assemblée selon le propos des siècles dans Éphésiens 3:10. Alors, devant Dieu, okay, oui. Aussi un autre passage, 1 Timothée, chapitre 5, verset 21. Alors ici, Paul déclare à Timothée, qui était un autre pasteur, mais un plus jeune un peu, il dit, « Je t'adjure devant Dieu, et le Christ Jésus et les anges élus, devant Dieu, devant le Christ et devant les anges élus, que tu gardes ces choses sans préférence, ne faisant rien avec partialité. » Autrement dit, il est en train de lui faire prendre conscience que Dieu l'observe, que Christ l'observe et que l'ensemble des anges observe de la façon dont il agit. Parce que c'est ça qu'il dit, que tu gardes ces choses sans préférence, ne faisant rien avec partialité. Je t'adjure, devant Dieu, il est en train de lui faire prendre conscience que, oui, il est toujours observé par Dieu, par Christ, par les anges élus. Alors, les anges sont des témoins muets de nos actes, de nos défaites et aussi de nos victoires. S'ils ont un ministère envers nous, nous avons un ministère envers eux. Leur révéler ce que la grâce de Dieu peut faire à travers les pécheurs pardonnés. Donc, les anges nous regardent vivre en assemblée et les anges nous regardent évangéliser. Alors, dans Acte 8, on l'a vu un petit peu tantôt, l'ange a eu connaissance de la situation, mais ne pouvant pas annoncer lui-même l'Évangile à l'Éthiopien, il donne des indications à Philippe pour qu'il éclaire le ministre éthiopien. Si l'ange ne s'était pas soucié de l'Évangile, il n'aurait pas envoyé Philippe le prêcher à cet homme en quête. Alors, on voit que Dieu se sert régulièrement. Alors, il nous regarde évangéliser. Acte 10, aussi quand la question de... qu'un ange est envoyé à Pierre pour aller vers Corneille. Alors, bien sûr que si Pierre est allé et l'autre, si Philippe est allé, bien sûr que les anges ont observé son évangélisation. Et dans Luc 15, verset 10, ça nous dit « Il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. » Alors, pour qu'il y ait un pécheur qui se repent, il faut qu'à quelque part, il y ait quelqu'un qui a soit parlé à un pécheur, soit donné un traité, soit entendu la parole de Dieu de quelque façon que ce soit. Il y a une multitude de façons d'évangéliser, c'est sûr. Mais à quelque part, si moi je suis ici aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu un chrétien, moi dans mon cas, c'était à Lac-Mégantic, qui m'a donné un petit Nouveau Testament. Et que Dieu m'a mis à cœur de le lire et que ça m'a ouvert le cœur et je suis venu à l'Évangile. Un autre, par un autre moyen, ça peut être par un sermon que tu as entendu, un autre, ça peut être par un traité que tu as reçu. Je connais des gens ici, je pourrais les nommer, qui ont été sauvés par un traité. Alors, il y a toutes sortes de moyens que le Seigneur utilise pour amener les gens à son salut, à la connaissance de Christ. Donc, on a vu que les anges nous regardent. Les anges nous protègent et nous délivrent. Maintenant, on va regarder la troisième catégorie de choses que les anges font avec nous. Ils nous visitent. Et ça, on l'a vu dans le livre de 13.2, allons-y, Hébreux 13.2. Les Écritures nous le disent, on a besoin de se le faire rappeler de temps en temps. Hébreux chapitre 13, verset 2. N'oubliez pas l'hospitalité. C'est quoi ça, l'hospitalité? À l'époque, les gens qui se déplaçaient d'une ville à l'autre, d'une région à l'autre, les hôtels n'étaient pas comme aujourd'hui, là. Ils n'avaient pas tous les coins de rue. Et il fallait que les chrétiens, quand ils voyageaient, s'accordaient le droit de te recevoir dans ta maison. Ils savaient qu'il y en avait un qui venait à Rouyn-Noranda. Ah, ben viens coucher chez nous, viens manger chez nous. Et le Seigneur, si vous regardez la doctrine de l'hospitalité dans toutes les Écritures, c'est important. Le Seigneur a toujours voulu qu'on soit ouvert à recevoir les autres dans notre maison. Ici, il nous donne une raison pour laquelle, mais c'est sûr que ce n'est pas la seule, là. Ça devrait être par obéissance et par amour de Christ, mais il nous dit ici, n'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, c'est en le faisant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Ça veut dire qu'il y a eu des personnes dans le cours de l'histoire et probablement dans l'histoire après le Nouveau Testament qui ont logé des anges chez eux, mais pour eux, à leurs yeux, c'était des êtres humains. Mais les Écritures nous disent que parfois, on peut avoir logé des anges puis qu'on ne le sait pas. Parce que ça dit bien, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Alors, peut-être qu'on a déjà reçu un ange chez nous, ou plus qu'un ange, puis qu'on ne le sait pas. Alors, ça nous prouve une chose, c'est que le Seigneur approuve et veut que nous soyons hospitaliers. Alors, on se souvient de Genèse 19, Lot, quand les deux étrangers sont présentés, c'était des anges, mais pour lui, il voyait des êtres humains. Il les a invités chez eux, il était hospitalier. Abraham était hospitalier. Et on pourrait prendre toute une série de personnages bibliques qui exerçaient l'hospitalité. Autre chose que les anges font, ils nous conduisent. Alors Abraham comptait sur la présence de l'ange de Dieu pour que le serviteur trouve une épouse pour son fils dans Genèse 24. Alors on voit que Dieu se sert de façon très permanente, très continuelle des anges pour, à quelque part, accomplir des choses qui sont selon sa volonté. Et dans Exode, chapitre 23, verset 23, ça dit « Mon ange marchera devant toi ». Alors, on voit, les anges peuvent nous conduire. S'ils marchent devant toi, c'est parce qu'ils veulent te montrer le chemin. Alors, c'est, et les anges aussi, et la mort. Au moment de notre mort, on l'a vu tout à l'heure dans Luc, ça nous dit qu'on est transporté par les anges au ciel. Alors, ça fait beaucoup de choses que les anges font dans nos vies. Quand on prend la peine d'analyser ça, de regarder tout cela avec attention. Alors, c'est justement dans Luc 16, on voit que Lazare ne fut pas seulement accompagné, mais qu'il fut porté par les anges. Alors, les applications. Trois applications que je vois d'une très brève étude des anges bons. Parce que ce n'est pas en deux leçons qu'on fait le tour de tout ça, là. Mais ça nous donne comme un survol. Alors, première application. Bien que les anges soient des créatures puissantes, ayant des possibilités bien au-delà de celles des hommes, il ne convient en aucun cas de les prier ou de les leur apporter un culte. Voyez-vous, on a parlé tout à l'heure, aux États-Unis, il y a l'angelomania. Ça veut dire qu'actuellement, il y a beaucoup de gens qui sont séduits et qui sont entraînés dans l'erreur et dans toutes sortes de mensonges, adorer ou servir les supposés anges qui sont... Et je me souviens, Michael Landon, qui faisait la petite maison dans la prairie, après qu'il a eu fini, il était immensément populaire, bien, il a fait une émission dans laquelle il était un ange qui venait sur la terre, qui intervenait dans la vie des hommes et qui corrigeait différentes situations complètement non bibliques. Alors, il ne convient pas de les prier, il ne convient pas de les adorer, il ne convient pas de leur apporter un culte. Je me souviens des petites images qu'on nous donnait quand on était jeunes. Les petites images, il y avait Michel l'archange, on voyait Michel avec le pied sur une tête de dragon, puis il y avait une prière en arrière de ça. On priait les anges. Alors que les Écritures nous disent non, on ne les prie pas, on ne les adore pas, et on fait pas rien de ces choses-là avec eux. Alors, devant la grandeur des révélations qui avaient été faites à Jean, Jean se prosterne devant l'ange. Et qu'est-ce qu'il voulait faire en se prosternant devant lui? La prosternation, c'était un geste de volonté d'adoration. Donc, même un apôtre comme Jean, devant l'apparition d'un ange, devient confus. Et l'ange est obligé de le reprendre puis de lui dire, « Garde-toi de le faire. » Il a voulu le faire, l'ange. « Non, non, oui, non, oui. Tu ne m'adores pas, moi. » une créature comme toi. Alors il dit, je suis ton compagnon d'esclavage et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Rends hommage à Dieu. Voyez-vous, qu'est-ce que ce texte-là nous enseigne? Ça nous enseigne que même comme croyant, devant un ange, on pourrait être confus et avoir... On est comme... Ça nous montre qu'on est fragile à ça et qu'on a besoin, comme le texte nous demande, d'être rappelé que la seule personne qu'on adore, c'est Christ. Deuxième application, les anges nous rappellent que le monde invisible est bien réel. Quand on parle de guerre spirituelle, là on est dans le domaine des anges bons, mais la semaine prochaine on va rentrer dans le domaine des anges mauvais. On oublie souvent qu'on est au centre d'une guerre qui est constante. Les démons, l'autre, ils lâchent pas. Même si toi, tu n'es pas conscient, même si toi, tu es complètement en dehors, tu te rends pas compte que tu es au milieu d'une guerre. Il faut savoir qu'autant les anges bons existent, c'est une réalité aussi réelle que quand on touche du bois, c'est réel. Mais on le voit pas. Par contre, on le voit pas que ça n'existe pas. Un peu comme Dieu. Par contre, on le voit pas qu'il n'existe pas. Alors, il faut être conscient que le monde invisible, le monde des êtres, des anges, bons ou mauvais, existe. C'est une réalité. Et le troisième point qu'on pourrait regarder aujourd'hui pour une leçon à appliquer dans nos vies, les anges sont des exemples d'obéissance. On en parle comme des vents rapide. Autrement dit, quand on prie le Notre Père, qu'on dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire, Seigneur, donne-moi d'agir aussi rapidement, aussi intensément. Et tu sais, les anges, quand ils ont un ordre, là, c'est pas, mais là, il n'y a pas de tétage, là. C'est immédiat, c'est à planche rapide. Alors, on a des leçons à tenir de eux, parce que eux sont des serviteurs de l'Éternel, des flammes, sont rapides. Quand il est question d'exécuter la volonté de Dieu, c'est instantané. Pas pour rien qu'on demande que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors, eux, ils agissent de façon... Et prions pour avoir une capacité, une réaction au commandement de Dieu qui soit aussi intense que celle des anges. Alors que notre glorieux Créateur soit béni, loué et adoré éternellement.
Amen. Amen.